Chapitre 18. Dépisté. Il est à peine nécessaire de dire qu'avec le bouton de Crosby dans sa poche et avec les renseignements obtenus de Dawson le jardinier, soigneusement recueillis dans son esprit, M. Joseph Grimstone regardait d'un œil particulièrement intéressé Steve Hargreaves l'idiot. L'agent n'était pas venu à Doncastre tout seul. Il avait amené avec lui un humble allié dans la personne du petit homme à l'air misérable qui avait rencontré l'idiot à la station de chemin de fer et qui avait reçu l'ordre de faire une garde secrète autour de Stephen Hargreaves. C'était par conséquent une chose très facile que de reconnaître l'idiot dans la ville de Doncastre où il avait été généralement connu dès son enfance. M. Grimstone avait été chez un médecin et lui avait soumis le bouton pour qu'il l'examinât. Les taches qu'il y avait dessus étaient bien ce que l'agent avait supposé, du sang, et le chirurgien découvrit un tout petit morceau de cartilage adhérent à l'anneau ébréché du bouton. Mais le même chirurgien déclara que ce projectile n'avait pas pu servir au meurtrier de James Conyers. Il n'avait pas traversé le corps, il avait seulement fait une blessure superficielle. M. Grimstone devait donc suivre la trace de l'une des banknotes, et dans ce dessein, lui et son allié se mirent à suivre l'idiot pour découvrir tous les endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter. Les repères préférés de Hargreaves étaient au nombre d'une demi-douzaine d'auberges très obscures, Joseph Grimstone alla en personne dans chacune d'elles. Mais il ne put rien découvrir. Toutes ses recherches aboutirent seulement à savoir qu'on n'avait pas vu Stephen Hargreaves changer ou essayer de changer quelque billet que ce soit. Il avait payé tout ce qu'il avait consommé et avait dépensé davantage qu'il n'en avait l'habitude. En outre, il avait bu beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Mais il avait payé en argent, sauf dans une occasion où il avait changé un souverain. L'agent alla à la banque, mais on n'y avait vu personne répondant au signalement de Stephen Hargreaves. Il chercha à découvrir quelque ami ou compagnon de l'idiot, mais là encore, il se trouva en défaut. Le familier à moitié imbécile des écuries de Mellish ne s'était jamais fait d'amis car il était entièrement dépourvu de qualité sociale. La manière dont M. Joseph Grimstone s'efforçait de se rendre maître de toutes les informations qu'il désirait avoir était quelque chose de vraiment merveilleux. Et dans l'après-midi, le lendemain de son entrevue avec le jardinier Dawson, il avait fait en sorte de mettre de côté tous les faits établis ci-dessus et avait réussi à capter la confiance de la vieille propriétaire de l'humble demeure dans laquelle Hargreaves avait élu domicile. Il est à peine nécessaire pour cette histoire de dire comment l'agent se mit à l'œuvre, car tandis que Stephen Hargreaves s'épaississait la cervelle avec de la bière dans une salle basse des environs, et que l'allié de M. Grimstone faisait bonne garde et se tenait prêt à donner l'éveil sur tous les mouvements de l'individu soupçonné, M. Grimstone interrogeait si habilement l'hôtesse de l'idiot qu'en moins d'un quart d'heure, il avait pris possession de cette faible intelligence et qu'il put faire ce qu'il voulut de la vieille et de son misérable logis. Son plaisir particulier était de faire un examen détaillé de la chambre occupée par l'idiot et des autres chambres, des buffets et des cachettes dans lesquelles Hargreaves avait accès. Mais il ne trouva rien qui le récompensât de sa peine. La vieille femme avait l'habitude de recevoir des locataires de passage, se reposant une nuit ou deux à Doncastre, avant d'aller plus avant dans leurs courses vagabondes, et l'habitation, composée de 6 chambres, était meublée de façon si mesquine que l'on pouvait prévoir dès l'entrée qu'il n'y aurait à payer que de 4 à 6 pence pour une nuit. Il y avait peu de cachettes, point de tapis sous lesquels on aurait pu cacher de gros rouleaux de banknotes, point de cadre de tableau derrière lesquels le même genre de propriété aurait pu être scellé, point de corniche massive ou de cartonnières aux franges épaisses couvrant les rideaux et offrant des cachettes poudreuses dans lesquelles les titres d'une demi-douzaine de fortunes pouvaient rester et pourrir. Il y avait 2 ou 3 recoins dans lesquels Grimstone pénétra avec une chandelle, mais il ne découvrit rien de plus important que de la faïence, des allumettes, du bois à brûler, des pommes de terre, des cordes sur lesquelles pendait par-ci par-là un oignon qui poussait tristement dans ses sombres solitudes, à l'ombre des bouteilles de ginger beer vides, des écailles d'huîtres, des vieux souliers et des vieilles bottes, des souricières en désordre, des filets noirs, des champignons humides s'élevant comme des spectres, de l'humidité et de l'obscurité. M. Grimstone sortit sale et malassonnaise d'une de ses sombres cachettes après une recherche infructueuse qui l'avait occupé et fatigué pendant 2 heures. D'autres feront l'affaire et me couperont l'herbe sous le pied si je perds ainsi mon temps, pensa l'agent. L'homme a l'argent sur lui, c'est aussi clair que le jour. Et quand bien même j'aurai le loisir de fouiller Doncastre jusqu'à ce que mes cheveux grisonnent, je ne trouverai pas ce que je désire. M. Grimstone ferma la porte du dernier buffet qu'il avait examiné avec une violente impatience et se tourna ensuite vers la fenêtre. Il n'y avait aucune trace de sa vedette dans la petite allée devant la maison et il eut le temps de pousser plus loin les choses. Il avait tout examiné dans la chambre de l'idiot et avait particulièrement fait attention à la garde-robe d'Argrève qui consistait en une pile de vêtements dont chacun portait dans sa coupe et sa mode le cachet d'une individualité différente et par là attestait lui-même qu'il avait appartenu à un autre maître. Il y avait un Newmarket de John Mellish et une culotte de chasse que le grand Poole avait seul pu faire, usée aux genoux, mais autrement pas trop mauvaise pour être portée. Il y avait une jaquette en toile et un vieil habit de livrée ayant appartenu à un des domestiques du parc, des revers de bottes dépareillés de toutes les formes connues, depuis le blanc sans tache à la délicate couleur crème de champagne des dandies, jusqu'à la teinte vinaigre, favorite des hardy squires de campagne. Un chapeau de groom avec un galon terni et un fond ébréché, des souliers à clous qui avaient dû appartenir à M. Dawson, des culottes de velours à côtes qui n'avaient pu servir qu'à un gardien de maison des fous mort il y a longtemps. Il y avait un habit qui portait l'horrible empreinte d'une terrible action commise depuis peu. C'était l'habit de chasse en velours porté par James Conyers, l'entraîneur, qui, percé par la balle meurtrière et inondé par un torrent de sang, avait été pris par Stephen Hargreaves dans la confusion de la catastrophe. Toutes ces choses, avec divers débris, tels que des éperons et des manches de fouet, des morceaux de harnais cassés, des bouts de cordes et autres saletés que la misère seule aime à accumuler, étaient empaquetés dans une lourde malle couverte d'une peau galeuse et protégés par une douzaine d'aunes de cordes nouées, lacées et ficelées ensemble, d'une manière que l'idiot avait considérée comme suffisante pour défier le plus habile voleur de la chrétienté. M. Grimstone n'avait pas eu beaucoup de peine à briser cette fermeture de nœuds et avait fouillé la malle de fond en comble. Il avait même examiné de près la serrure, il avait tâté chaque tête de clou en cuivre pour s'assurer si l'un d'eux avait été bougé ou enlevé. Il croyait possible que 2000 livres de la Banque d'Angleterre aient été clouées sous la peau galeuse. Il poussa un profond soupir quand il eut achevé son inspection, remit les habits un à un dans la malle, renoua la corde usée et, avec un soupir plus profond encore, il tourna le dos à la chambre de l'idiot. « Ce n'est pas bon, pensa-t-il, le gilet à raies jaunes n'est pas parmi les habits et l'argent n'est caché nulle part. Serait-il assez prudent pour avoir détruit ce gilet? Cela m'étonnerait. Il en avait un en laine rouge ce matin. Peut-être a-t-il celui à raies jaunes dessous. » M. Grimstone brossa la poussière et les toiles d'araignée de ses habits, lava ses mains dans un graisse-bol plein d'eau bouillante que la vieille femme lui apporta et s'assit ensuite devant le feu, nettoyant pensivement ses dents, et fit un froncement de sourcils qui cacha momentanément ses petits yeux gris. « Je n'aime pas à être battu, pensa-t-il, je n'aime pas à être battu. » Il doutait qu'un magistrat consentît à lui accorder un ordre d'arrestation contre l'idiot sur la seule preuve qu'il avait en sa possession, le bouton taché de sang de Crosby de Birmingham, et sans cette autorisation, il ne pouvait chercher les billets sur la personne qu'il soupçonnait. Il avait interrogé tous les domestiques de Mellish Park, mais il n'avait rien pu découvrir qui pût jeter de la lumière sur les actions de Stephen Hargreaves pendant la nuit du meurtre. Personne ne se rappelait l'avoir vu, personne n'avait été dans la partie sud des bois cette nuit-là. Un des garçons avait passé devant la loge du Nord en allant de la grande route aux écuries au moment où Aurora entendait le coup de feu dans le bois et il avait vu une chandelle brûlante à la fenêtre la plus basse, mais naturellement, ceci n'indiquait ni un chemin ni un autre. « Si nous pouvions trouver l'argent sur lui, pensa M. Grimstone, ce serait une jolie preuve du vol, et si le gilet d'où vient le bouton était en sa possession, ce ne serait pas une mauvaise preuve du meurtre si l'on arrivait à réunir ces deux choses. mais il nous faut donner un vigilant coup d'œil sur mon ami pendant que nous faisons nos recherches, et je veux être pendu s'il ne nous donne pas le change, s'il ne part pas pour Liverpool, et s'il n'est pas hors du pays avant que nous sachions de quel côté nous retourner. » Le vrai de l'affaire était que M. Joseph Grimstone n'agissait peut-être pas aussi consciencieusement dans cette affaire qu'il aurait pu le faire si l'amour de la justice seul et nulle idée de récompense eût été la règle principale de sa conduite. Il aurait pu avoir toute l'aide qu'il aurait voulu de la constablerie de Doncaster s'il avait voulu se fier à ses membres. Mais comme un individu très rusé qui possède un cheval de 3 ans, qu'il considère comme un fort coureur, et capable de tenir secrète pour ses amis et le monde du sport les capacités de son cheval, tandis qu'il place sur le dos de l'animal une énorme somme d'argent, de même, M. Grimstone voulait garder ses renseignements pour lui seul, jusqu'à ce qu'il lui eût rapporté le fruit d'or, sous la forme d'une petite récompense du gouvernement et d'une grande de John Mellish. L'agent avait raison de dire que les limiers de Doncaster, trompés par un double de cette même lettre, qui avait d'abord éveillé l'attention de Scotland Yard, étaient dans le mauvais chemin comme il avait été, et il fut très content de les laisser dans l'erreur où ils étaient. « Non, dit-il, c'est un jeu dangereux, mais je le jouerai simplement, et jusqu'à la fin, sans personne que Tom Chivers pour m'aider. Un billet de 10 livres le contentera si nous gagnons la récompense. » Ayant fait ce calcul, M. Grimstone s'en alla, après avoir récompensé l'hôtesse par un don que la vieille femme considéra comme princier. Il l'avait complètement trompé sur l'objet de ses recherches, en lui disant qu'il était clerc de notaire, envoyé par son patron pour chercher un codicille qui avait été caché quelque part dans la maison par un vieillard qui y avait vécu dans l'année 1783, et il s'était efforcé, dans le cours de la conversation, de tirer de la vieille femme, qui était loquace, tout ce qu'elle avait à dire sur l'idiot. Ce n'était pas beaucoup, certainement. À sa connaissance, Hargrave n'avait pas changé un billet. Il avait payé sa nourriture, mais il n'avait pas dépensé un shilling par jour. Quant à des billets, il n'était pas le moins du monde probable qu'il en eût. Il se plaignait toujours de sa pauvreté et disait que ses petites économies ne dureraient pas longtemps. Cet Hargrave est trop profond pour tous ceux qui l'appellent idiot, pensa M. Grimstone en quittant la maison meublée et en se dirigeant lentement vers l'auberge où ils avaient laissé l'idiot sous l'œil vigilant de M. Tom Chivers. J'ai souvent entendu dire que ces demi-idiots ont plus d'esprit dans leurs petits doigts qu'un homme ordinaire dans toute sa personne. Un autre homme n'aurait jamais pu résister à la tentation de changer un des billets, ou il s'en serait allé portant ce gilet, ou il aurait caché le jour du meurtre, ou il aurait changé une chose ou une autre qui lui aurait fait mettre le grappin dessus. Mais le nôtre n'a rien fait de tout cela. Il cache ses billets et il cache le gilet, puis il rit au nez de ceux qui le cherchent et boit sa bière aussi à son aise que n'importe qui. Ayant ainsi réfléchi, l'agent se dirigea vers l'auberge où il avait laissé Stephen Hargreaves. Il commanda un verre de grog au comptoir et marcha dans la salle, espérant voir l'idiot apparaître soudain devant son verre, quoique gardé par l'œil apparemment indifférent de M. Chivers. Mais il n'en fut pas ainsi. La salle était vide et, par de prudentes investigations, il découvrit que l'idiot et son surveillant étaient partis depuis plus d'une heure. Il avait été défendu à M. Chivers de laisser sa proie s'éloigner hors de sa vue, sous quelque prétexte que ce fût, excepté si l'idiot était revenu à la maison, tandis que M. Grimstone était occupé à fouiller son domicile, dans lequel Tom n'avait qu'à faire quelques pas pour donner l'éveil à son chef. Partout où Stephen Hargreaves allait, Thomas Chivers le suivait. Mais il devait, avant tout, agir de façon à n'élever dans l'esprit de l'idiot aucun soupçon qui pût lui donner à penser qu'il était suivi. Comme on vient de le voir, le pauvre Chivers n'avait pas une tâche facile et il s'était efforcé de l'accomplir avec beaucoup d'habileté. Si Stephen Hargreaves était assis à boire pendant une demi-journée, M. Chivers devait aussi boire ou faire semblant de boire pendant le même temps. Si l'idiot montrait quelques dispositions à être communicatif et donnait à son compagnon occasion de se lire avec lui, l'aide de l'agent était obligée d'employer sa plus grande adresse et sa plus grande discrétion pour profiter de cette bonne chance. C'est une étonnante prévision de la Providence qui fait que la trahison, qui serait horrible et haïssable dans un autre homme, est considérée comme parfaitement légitime dans l'homme qui s'est employé à poursuivre un meurtrier ou un voleur. Les vils moyens que le criminel emploie contre son inoffensive victime sont à leur tour employés contre lui, et le misérable, qui rit de la pauvre dupe qu'il a entraînée à sa ruine par ses mensonges, est attrapé à son tour par quelque tromperie ou par quelque pitoyable moyen usé de l'espion salarié qui a été gagné pour l'amener à sa perte. Pour celui qui s'est mis en dehors de la société, le sens de l'honneur est nul et vide. Son existence est un perpétuel danger pour les femmes innocentes et les hommes honorables, et l'agent qui l'arrête à la fin rend à la société un tel service qu'il doit contrebalancer la lâcheté des moyens dont il s'est servi. Le temps de Jonathan Wild et de ses compagnons est loin, et ceux qui arrêtent les voleurs ne commencent plus leur carrière comme voleurs. Les agents de police sont aussi honnêtes qu'ils sont intrépides et rusés, et ce n'est pas leur faute si l'immonde nature de tout crime leur donne de temps en temps d'immondes besognes à faire. Mais Stephen Hargreaves n'avait pas fourni l'occasion pour laquelle M. Tom Chivers était resté et avait attendu. Il s'était assis mélancolique, silencieux, stupide, inabordable, et comme les ordres de Tom étaient de ne pas s'imposer à son compagnon, il avait été obligé d'abandonner toute pensée de gagner les bonnes grâces de l'idiot. C'est ce qui rendait difficile la tâche de le surveiller. Ce n'est pas une chose aisée que de suivre un homme sans faire semblant de le suivre. C'était jour de marché et la ville était remplie des bruyantes gens de la campagne. M. Grimstone se souvint tout à coup de cela et ce souvenir n'apporta aucune paix à son esprit. « Jamais Chivers ne m'a trompé, pensa-t-il, et sûrement il ne le fera pas maintenant. » Et j'ose dire qu'en ce qui regarde l'affaire, ils sont en sûreté dans quelque autre taverne. Je vais m'en aller et les chercher. M. Grimstone, comme je l'ai dit, connaissait tous les endroits fréquentés par Hargreaves. Cela ne lui prit donc pas longtemps pour visiter 3 ou 4 cabarets où Stephen Hargreaves pouvait se trouver et découvrir qu'il n'y était pas. Il flâne quelque part en ville, pensa-t-il, avec mon homme sur ses talons. « Je veux aller du côté du marché et voir si je ne puis les découvrir par là. » De la rue dans laquelle il marchait, M. Grimstone tourna dans une allée étroite conduisant à une grande place sur laquelle se tenait le marché. L'agent marchait d'une manière indifférente, les mains dans ses poches et un cigare à la bouche. Il avait une parfaite confiance dans M. Thomas Chivers et la foule qui encombrait la place et son voisinage n'affaiblit en aucune manière son sentiment de sécurité. Chivers le suivra là, malgré tous les obstacles, pensa-t-il. Il aura l'œil sur cet homme, comme s'il avait à le surveiller entre Charing Cross et Whitehall quand la reine se rend à l'ouverture du Parlement. Ce n'est pas un homme à être roulé par la foule sur une place de marché de campagne. Calme dans ce sentiment de sécurité, M. Grimstone s'amusa à regarder autour de lui avec un air d'étonnement hautain les manières et les habitudes des indigènes qui se pressaient sur la place du marché et faisaient leurs affaires dans cette paisible ville. Il s'arrêta sur la dernière petite marche usée conduisant à la porte des comédiens du théâtre et lut des fragments de vieilles affiches qui pourrissaient sur le linteau et le dormant de la porte. C'étaient de brillantes annonces de représentations dramatiques qui avaient eu lieu il y avait longtemps, et, au-dessus de ces reliques du passé et des taches de boue et de pluie, apparaissait en grosses lettres noires le récit d'un drame plus terrible que tous ceux qu'on avait jamais joués sur ce théâtre de province. L'afficheur avait placé l'avis de la récompense offerte par John Mellish pour la découverte du meurtrier dans tous les endroits avantageux et n'avait pas oublié cette position qui commandait un des débouchés de la place. « C'est étonnant, dit M. Grimstone, que cette bienheureuse affiche n'ait pas ouvert les yeux à ces nigauds de Doncastre. Je suis sûr qu'ils pensent que c'est un voile épais pour les dépister. Leurs nez habiles sont entêtés dans leur détermination. » Si je puis atteindre mon homme avant qu'ils ouvrent les yeux, j'aurais fait un coup de filet, comme il y a longtemps que je n'en ai eu. » M. Grimstone s'éloigna du théâtre et traversa le marché, en se livrant à ses agréables réflexions. À l'intérieur du bâtiment, la clameur des acheteurs et des vendeurs était à son apogée. De bruyants campagnards causaient dans leur patois du Nord sur la valeur et le mérite de leur volaille, de leur beurre, de leurs œufs, les marchands de viande de boucherie se mettaient en quatre pour essayer de satisfaire simultanément une douzaine de rusées femmes de charge marchandant, tandis que, du dehors, arrivait un bruit confus d'autres marchands et d'autres acheteurs, criant et se bousculant contre les compartiments des marchands de légumes et les brouettes limoneuses des marchands de poissons aux jaquettes bleues. Au milieu de ce bruit et de cette confusion, M. Grimstone marcha subitement vers son confiant allié, pâle, frappé de terreur et seul. L'esprit de l'agent ne fut pas lent à saisir la vraie face de la situation. « Vous l'avez perdu !» murmura-t-il en colère, saisissant l'infortuné M. Shivers par le collet de son habit et le clouant aussi solidement que s'il avait la sérieuse idée de faire de lui un meuble permanent sur les dalles de la place. « Vous l'avez perdu, Tom Shivers » continua-t-il et perdu. « Vous avez perdu une partie que je... Vous avez perdu une partie que je vous avais dit avoir plus de prix pour moi que toutes les autres pour lesquelles je vous ai employé. » Vous m'avez enlevé la meilleure chance que j'ai eue depuis que je suis à Scotland Yard, et à vous aussi. Car j'aurais agi libéralement avec vous, ajouta l'agent, oubliant apparemment sa rêverie du matin, dans laquelle il avait pensé offrir à son aide 10 livres pour le payer de toutes ses peines. J'aurais agi très libéralement avec vous, Tom. Mais quelle est la nécessité de rester à beugler ici? Venez avec moi, vous me direz en marchant comment cela vous est arrivé. Tenant encore fortement le collet de son subalterne, M. Grimstone sortit de la place du marché, ne regardant ni à droite ni à gauche, quoique quantité d'yeux campagnards s'ouvrissent tout grands lorsqu'il passait, attiré sans doute par la rapidité de son pas et la détermination évidente de ses manières. Ces rustiques paysans pensaient probablement que cet homme, dans son long habit noir et avec son regard sévère, avait arrêté ce petit homme misérable au moment où il lui volait son mouchoir et qu'il entraînait pour le livrer aux mains de la justice. M. Grimstone relâcha son étreinte quand lui et son compagnon eurent quitté le marché. « Maintenant, dit-il hors d'haleine mais sans diminuer son pas, maintenant, je suppose que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé à faire un tel... » Ici, un adjectif inadmissible. « Bête que vous êtes !» Jamais vous ne devineriez où je vais. Je vais à la station. Jamais vous ne devineriez pourquoi j'y vais. Vous le devineriez si vous n'étiez pas un imbécile. Maintenant, racontez-moi comment cela est arrivé. Le pouvez-vous ? Il n'y a pas beaucoup à dire, murmura péniblement l'homme le personnage, dont les fonctions respiratoires étaient tristement éprouvées par le pas de son supérieur. « Il n'y a pas grand-chose. J'ai essayé de faire connaissance avec lui en faisant semblant d'être tranquille et sans artifice, mais cela ne réussit pas. Il était aussi grognon qu'un terrier, aussi je ne le contraignis pas, mais je gardais un œil sur lui et je me présentais à lui comme si j'étais venu à Doncastre pour une affaire de course et comme si j'étais chargé de voir un cheval qui avait été élevé à quelques milles par une personne de Londres. » Lorsqu'il quitta la place, je le suivis sans me faire remarquer. Mais depuis ce moment, je pensais qu'il voulait fuir, car il ne faisait pas 3 pas sans regarder en arrière, et il me fit courir à faire fléchir mes jambes sous moi, elles en tremblent encore dans ce moment. Ensuite, il me mena sur la place du marché près d'une paire de vaches, et là, je le perdis. J'ai été en dehors et en dedans du marché, et par-ci et par-là, jusqu'à me laisser choir, mais cela ne m'a servi à rien, et vous n'avez pas à me blâmer, car personne n'aurait pu faire davantage. » M. Shivers essuyait la sueur qui couvrait sa figure et qui témoignait de ses exercices. De sales petits filets descendaient de son front et coulaient sur ses pauvres joues fanées. Il essuyait ses marques de fatigue avec un mouchoir de coton rouge en poussant un soupir suppliant. « S'il y a quelqu'un à blâmer, ce n'est pas moi, » fit-il doucement. « Depuis le commencement, j'ai dit que vous devriez avoir de l'aide. Un homme qui est sur son propre terrain et qui le connaît est trop fort pour un seul individu étranger, quelque dur qu'il puisse travailler. » L'agent se tourna furieux contre son subordonné. « Qui est-ce qui vous blâme ? » dit-il avec impatience. « Et pourquoi crier avant d'être battu ?» Pendant ce temps, ils avaient atteint la station du chemin de fer. « Depuis combien de temps l'avez-vous perdu ?» demanda M. Grimstone au malheureux agent. « 3 quarts d'heure, ou peut-être 1 heure, » ajouta Tom d'un air douteux. « Je suis sûr que c'est depuis 1 heure, » murmura Grimstone. Il se dirigea tout droit vers un des principaux employés et demanda quels trains étaient partis dans la dernière heure. « 2, » deux trains de marché, un du côté de l'Est, chemin de Selby, l'autre pour Pennistone et les stations intermédiaires. L'agent regarda la table des départs, faisant courir l'ongle de son pouce le long des noms des stations. Ce train atteindra Pennistone à temps pour rejoindre celui de Liverpool, n'est-ce pas ? Demanda-t-il. Juste à temps. Quand est-il parti ? Le train de Pennistone ? Oui, il y a environ une demi-heure, à 2h30. La cloche avait frappé 3h quand M. Grimstone se dirigeait vers la station. Il y a une demi-heure, murmura l'agent. Il a eu amplement le temps de prendre le train après avoir perdu Shivers. Il demanda aux gardes et aux porteurs si personne n'avait vu un homme semblable au signalement de l'idiot, visage pâle, bossu, en culotte de velours à côtes et en jaquette de futaine. Il pénétra même dans le cabinet de l'employé au billet pour lui faire la même question. Personne n'avait vu Stephen Hargreaves. Deux ou trois le reconnurent à la description de l'agent et demandèrent si c'était un des garçons d'écurie de Mellish Park que ce monsieur cherchait. M. Grimstone évita une réponse directe à cette question. Le secret était, comme nous le savons, le principe d'après lequel il menait ses affaires. « Il peut être arrivé à leur fausser compagnie à tous, dit-il confidentiellement à son fidèle mais abattu allié. Il peut être parti sans qu'un d'eux l'ait vu. Il a pris l'argent sur lui, j'en suis certain, et son jeu est d'aller à Liverpool. Ses recherches d'hier à propos des trains le prouvent. Je pourrais télégraphier et le faire arrêter à Liverpool, supposant qu'il nous a tout joué et qu'il est là, si je voulais laisser rentrer les autres dans mon jeu, mais je ne veux pas. Je gagnerai ou je perdrai, mais je jouerai seul. Il peut essayer un autre détour et partir pour Hull, par les bateaux des canaux que les gens du marché prennent, et ensuite filer vers Hambourg ou quelque chose comme cela. Mais cela n'est pas probable, ces gens-là suivent toujours le même chemin. Il semble que si un homme a tué un autre homme, ou falsifié son nom, ou détourné de l'argent, ses idées sont fixées sur un sillon et ne peuvent jamais s'élever plus haut que Liverpool et le paquebot américain. M. Shivers écouta respectueusement les communications de son patron. Il était très content de voir que la sérénité de son esprit revenait graduellement. « Maintenant, je vais vous dire, Tom, » dit M. Grimstone, « si ce garçon nous a faussé compagnie, il est parti et nous ne pourrons pas chercher à le rattraper avant 10h30 ce soir, quand il y aura un train qui nous prendra pour Liverpool. S'il ne nous a pas faussé compagnie, il n'y a qu'un chemin par lequel il puisse quitter Doncastre, et c'est par la station. » Ainsi, vous resterez ici, patient et tranquille, jusqu'à ce que vous me voyiez ou entendiez parler de moi. S'il est à Doncastre, je me ferai pendre si je ne le trouve pas. » Après cette puissante affirmation, M. Grimstone partit, laissant son éclaireur faire le guet pour la venue probable de l'idiot.